inquiéter ou bien consulter votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil.
Et puis les courses à Auteuil, première course, la combinaison gagnante du Quintet Plus, 3, 17, 18, As et 14. 14h03 sur France Inter, 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
Merci Jacqueline Pétrose et bonjour à tous. Aujourd'hui la reine la plus célèbre de l'histoire de l'Espagne, Isabelle la catholique. Isabelle, que le catholicisme reconnaissant mit au rang des grands hommes en lui ôtant jusqu'à son sexe, était une Espagnole offrant au plus haut degré le double caractère de son esprit, la superstition et l'opiniâtreté. Jean-Bernard Marie Lafont. Ans d'histoire. Isabelle la catholique est morte à Medina del Campo, près de Valladolid, il y a 500 ans, le 26 novembre 1504. Quand elle était montée sur le trône de Castille, 30 ans plus tôt, l'Espagne n'existait pas encore, divisée en royaumes indépendants, dont l'un était occupé depuis 700 ans par les musulmans de Grenade. Elle ne pesait pas bien lourd parmi les grandes puissances européennes de l'époque. Et personne ne pouvait imaginer qu'avec son mari, Ferdinand d'Aragon, cette petite reine de 23 ans parviendrait à libérer Grenade, à jeter les bases d'un État moderne et à donner à son pays un empire en permettant à Christophe Colomb de découvrir un nouveau monde.
Par la grâce de Dieu et de votre majesté bienfaitrice, un nouveau continent vient d'être découvert et revendiqué au nom de la couronne d'Espagne. En l'an 1492, l'Espagne, par la grâce de votre majesté, a maintenant confirmé aux yeux de toute l'humanité l'existence d'un nouveau monde, Terra Incognita. Le premier à découvrir ce continent fut un marin mandaté par votre majesté.
Joseph Pérez, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes l'ancien directeur de la Casa Velázquez, qui est un peu à Madrid l'équivalent de ce qu'est l'école française de Rome. Vous êtes aussi l'auteur d'une biographie d'Isabelle la Catholique qui vient d'être publiée chez Payot. Isabelle la Catholique qui est morte donc il y a 500 ans tout juste. Et à la fin d'un règne de 30 ans qui a été marqué par de très grands événements, la reconquête en 1492 du dernier bastion musulman en Espagne, à Grenade, la découverte, on l'a entendu, de l'Amérique, la même année, mais aussi des événements qui ont beaucoup terni son règne, la création de l'Inquisition, l'expulsion des Juifs et des Arabes d'Espagne. Mais avant d'en parler, je voudrais que vous nous rappeliez d'abord ce qu'était l'Espagne quand elle est montée sur le trône. Elle est montée sur le trône comme reine de Castille. En fait, l'Espagne proprement dite n'existait pas encore. C'était, vous le dites dans votre livre, une simple expression géographique.
Oui, c'est vrai. Du point de vue géopolitique, il n'y avait pas d'unité de l'Espagne. Il y avait 5 royaumes indépendants. Le Portugal, la Castille, l'Aragon, le royaume de Grenade, musulman, et le royaume de Navarre, qu'on oublie un peu trop. Alors, l'astuce, pas l'ambition d'Isabelle, a été, en effet, avec son mari, de jeter les bases d'une réunification politique, et forcément, quoi, la Castille étant au centre, et étant l'État le plus puissant, avait le choix de s'allier, se s'unir soit avec le Portugal, soit avec l'Aragon. Isabelle a choisi l'Aragon pour des raisons politiques, pas pour des raisons sentimentales, parce que c'est de ce côté-là qu'elle pouvait espérer le plus d'appui pour accéder au pouvoir.
Et qu'est-ce que ce qu'on appelle aujourd'hui les Espagnols, qui étaient donc les Castillans, qui étaient les gens du royaume d'Aragon, il y avait d'ailleurs la Catalogne dans le royaume d'Aragon, qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Même pas la langue, dites-vous, Joseph Pérez.
Non, ils avaient en commun quand même quelque chose, oui. Ils se sentaient tous Espagnols.
Même les Portugais.
Même les Portugais, oui, même peut-être au XVIe siècle. Un grand poète portugais dira, je vais chanter les exploits, les Lusiades, je vais chanter les exploits des Portugais et des Castillans. Je dis bien Portugais et Castillans parce qu'Espagnols, nous le sommes tous. Tous se sentaient par conséquent Espagnols, mais politiquement divisés. Alors il y avait effectivement des Castillans, il y avait des Navarrais, il y avait des Aragonais, des Valenciens, des Catalans, et tout ça divisés politiquement, mais culturellement, j'insiste, unis. La langue était différente, en effet. Le portugais d'un côté, le castillan de l'autre, les dialectes dérivés du catalan au Baléares, en Catalogne, à Valence de l'autre côté. Mais enfin, culturellement, c'était quand même une unité supérieure.
Avec un royaume beaucoup plus important que les autres, donc, qui était le royaume de Castille, en plein centre, justement, de l'Espagne, et dont Isabelle devient la reine en 1474, pardon, très jeune, hein. C'est vrai, on l'oublie un petit peu, je crois qu'elle a 23 ans à ce moment-là, Joseph Pérez, et un peu par hasard, en fait, hein, s'il y a eu une querelle dynastique, elle n'était pas la fille du roi de Castille de l'époque, qui était Henri IV de Castille.
Elle n'était pas, en principe, appelée à régner. Elle s'est imposée. Il y a eu une discussion, une querelle dynastique sur laquelle on ne va pas s'attarder ici, mais enfin, les droits d'Isabelle à la couronne n'étaient pas évidents. Elle s'est imposée dès l'âge de 17 ans, 18 ans, elle a réussi à... Et elle s'est autoproclamée, on dit quelquefois, elle a été proclamée reine. Non, elle s'est proclamée reine. Et elle a mis tout le monde devant le fait accompli, en partant du principe, quoi, on est pour ou contre moi.
C'est une femme de caractère. D'ailleurs, son mariage avec Ferdinand d'Aragon, qui lui doit devenir le roi d'Aragon, elle le fait volontairement contre le gré du roi de Castille à l'époque, hein. Et pourquoi? C'est pas un mariage d'amour, en fait, hein. C'est un mariage d'intérêt. Déjà, elle voit, elle a la vision, au fond, de la réunification, du rassemblement de la Castille et du royaume d'Aragon.
Dans un premier temps, son but est beaucoup plus immédiat. Elle a besoin d'appui pour régner. Les Portugais contestent ses droits. Alors elle se tourne vers l'Aragon. Alors il se trouve que l'héritier du royaume d'Aragon a à peu près le même âge qu'elle. Et qu'il va devenir donc le roi d'Aragon, ça tombe bien, mais elle se réserve seule le titre de reine de Castille. D'ailleurs, elle dit, elle se proclame reine et propriétaire de Castille.
Alors ça, c'est quand elle devient justement reine de Castille en 1574. Ferdinand, lui, devient roi d'Aragon 5 ans plus tard, et la quasi-totalité de l'Espagne se retrouve donc sous l'autorité d'une espèce de monarchie bicéphale, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire.
Reyes Ferdinandos et Isabella, executores voluntas rei sunt, et cum vobis regni domini per terras novas ultramares crestatum, et ideas crux Christi maneat semper.
Inter 2000 ans d'histoire, aujourd'hui Isabelle la catholique, et cette musique Danza Alta de Francisco de la Tolle, qui était un musicien à la cour d'Isabelle et de Ferdinand. C'est rare dans l'histoire, je le disais, Joseph Pérez, une monarchie bicéphale. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Tous les deux gouvernaient l'Espagne ou gouvernaient chacun de leur royaume? Comment ça fonctionnait entre eux? Et aussi, je puis dire, qui portait la culotte?
Les deux. Dès le début, l'accord s'est fait pour dire que les deux souverains régneront ensemble et que il sera impossible pas de les diviser. Alors, les textes sont formels, on donne des ordres pour que tous les documents soient établis ou non. Le roi et la reine ont fait, le roi et la reine ont décidé, et jusqu'au bout, il sera difficile, il est extrêmement difficile aujourd'hui pour l'historien de savoir à qui revient telle ou telle décision. Enfin, on a quelques idées quand même, on le verra tout à l'heure. Mais enfin, en principe, les deux règnent conjointement. Une seule volonté en deux corps.
Et dans quelle capitale, au fait, Joseph Pérez?
Il n'y a pas de capitale. Pas une capitale itinérante. C'est beaucoup plus tard, sous Philippe II, presque 100 ans après que...
Philippe II, qui est l'arrière-petit-fils d'Isabelle.
Ouais, l'arrière-petit-fils, qu'on établira la capitale à Madrid. Mais, jusqu'alors, les souverains se sont promenés un peu partout.
Et tout ceci en gouvernant donc tous les deux, pour le meilleur ou pour le pire. Le pire étant peut-être la création, en 1478, de ce qu'allait devenir un des tribunaux les plus sinistres de l'histoire.
Le tribunal de la Sainte Inquisition. Devant la preuve avouée de votre hérésie, et constatant avec douleur que vous demeurez dans votre fausse croyance, vous abandonne au bras séculier, à charge pour celui-ci d'élever un bûcher, de vous y placer jusqu'à ce que mort s'en suive, avant de disperser vos cendres au vent, afin qu'il ne reste rien d'un corps habité par le démon.
Celui qui peut arrêter la fureur des hommes, comme il règne sur la fureur des flots, implorons de notre Seigneur.
En le nom du Père, del Hijo y del Espíritu Santo, te arrepientes de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Oui, 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 oui.
Alors c'est en Espagne, Joseph Pérez, que l'Inquisition a été la plus active, je crois même qu'elle a duré jusqu'au 19e siècle, et c'est sous Isabelle la catholique qu'elle s'y est installée en 1478, c'est vraiment une des pages les plus sombres de ce règne dont on dit pourtant qu'il était le siècle d'or ou un des siècles d'or de l'Espagne.
Le prélude en tout cas du siècle d'or. Oui, là la décision, on pense que la décision est venue de Ferdinand, mais enfin peu importe, pas le, elle l'a assumée. Alors le problème est le suivant, l'Espagne en 1478 est l'un des le seul pays de la chrétienté occidentale, où des religions dissidentes non seulement sont tolérées, mais encore disposent d'un statut.
En fait, il y a trois grandes religions. Il y a la catholique,
la catholique, les musulmans et les juifs. Oui. Alors, ça pose un problème. Pas de, au moment où la reconquête est sur le point d'être terminée, l'Espagne est montrée un peu du doigt, un peu partout en Europe. On l'accuse d'être à moitié chrétienne, ou pas beaucoup, parce qu'elle a subi l'influence des sémites, des juifs, des arabes, pendant 700 ans, que tout ça, il en restait quelque chose.
L'Europe, même pas le pape, on s'en fout.
Non, le pape, pas plus que les autres, mais, les Italiens, les Français, les Hollandais, Erasme refusera en 1517 d'aller à l'Espagne en disant « Qu'est-ce que je vais faire dans ce pays qui est à moitié enjuivé ?» Tout le 16e siècle en Europe a vécu dans cette idée que l'Espagne, du point de vue de la foi, n'était pas un pays sûr. Et on disait, la preuve, il a fallu monter une inquisition parce que sans ça, les Espagnols, spontanément, auraient cessé d'être catholiques. Alors donc, le problème pour Isabelle et Ferdinand, c'est d'en finir avec cette mauvaise réputation qu'a l'Espagne, de mettre un terme à cette coexistence qui était justifiée peut-être autrefois par les nécessités de la reconquête, mais qui, à leurs yeux, ne se justifie plus. Alors, dans un premier temps, on crée l'Inquisition pour obliger les Juifs convertis à l'être vraiment, c'est-à-dire à
ne pas faire... Les conversos,
souvent, c'était convertis pour des raisons d'opportunité ou par peur de la persécution, mais enfin, une fois convertis, en clandestinement, ils revenaient en famille à leurs anciennes croyances. Alors, ce qui les mettait dans une situation difficile. Alors, pour les obliger à s'assimiler définitivement, c'est contre eux qu'est créée l'Inquisition. Une institution terrible, pas par son fonctionnement, beaucoup plus que par le nombre des victimes. Vous savez, au total, ça fait, dans toute l'histoire de l'Inquisition, 30 000 victimes, c'est déjà beaucoup, c'est énorme, mais sur trois ou quatre siècles, si on compare à des événements comme la chasse aux sorcières en Allemagne, ou la Saint-Barthélemy en France...
C'est quand même pas une raison, parce que...
Non, pas du tout.
Plus surprenant, d'ailleurs, vous le dites vous-même, Joseph Pérez, que les Juifs convertis occupaient parfois des fonctions très importantes. Vous citez par exemple Hernando de Talavera, qui était le confesseur, parce qu'il s'était converti, et lui vraiment converti, le confesseur de la reine.
Non seulement le confesseur, mais on peut même dire le ministre des Finances. Enfin, une sorte de... C'est l'homme qui a obu la confiance du roi et de la reine, et qui a mené à bien la plus grande partie des réformes politiques et financières qui ont eu lieu entre l'avènement d'Isabelle et 1492. On le renommera ensuite archevêque de Grenade, mais c'est effectivement un homme de tout premier plan, et il n'est pas le seul. C'est pour ça que je crois qu'il faudrait écarter le soupçon de racisme de la part de la reine. Il y a dans l'esprit du roi et de la reine le souci de parvenir à l'unité nationale par l'unité de foi. On considère que la présence de juifs mal convertis et de juifs tout court, et ensuite de musulmans, est un obstacle, en quelque sorte, à la formation, à la cohésion nationale. D'où les mesures de coercition qu'on va prendre et qui vont être terribles.
Oui, parce qu'il y a l'Inquisition, d'abord, avec Torquemada, le sinistre Torquemada. Il y aura ensuite, en 1492, l'année même où Christophe Colomb découvre l'Amérique, il va y avoir l'expulsion de 200 000 juifs.
Non. Il ne passe pas... 52 000 au maximum. En comptant les retours, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Mais enfin, si vous comparez...
Ils étaient menacés de mort, s'ils s'en allaient
pas. Non, pas du tout. Ils n'étaient pas du tout menacés de mort. Ou ils se convertissaient, ou ils partaient. Beaucoup se sont convertis.
Pourquoi, c'était quoi? C'était une manière de les forcer à se convertir?
Il s'agissait de les forcer à se convertir. Alors, vous me direz, c'est beaucoup, 50 000. Oui. Enfin, c'est, sur une population de 5 ou 6 millions d'habitants, à l'époque, c'est beaucoup, c'est trop, mais, enfin, ils n'étaient pas menacés de mort, hein.
Vous savez, vous semblez minimiser un petit peu ce qui s'est passé, parce que, après les Juifs, 10 ans après, il y aura aussi l'expulsion, alors que Grenade a été, alors qu'ils ont été chassés, enfin, du pouvoir à Grenade, ils restent évidemment très nombreux, les musulmans en Espagne, au début, on tolère leur religion, et même chose, en 1501, c'est-à-dire 10 ans après ou 9 ans après l'expulsion des Juifs, on force également ces musulmans à quitter l'Espagne. C'est, il y a vraiment une espèce d'épuration, j'allais dire ethnique, en tout cas religieuse, qui
non,
se fait.
Non, là je vois que les mots sont excessifs, il ne faut pas transposer sur cette époque
des
mots qui ont été créés pour désigner quoi, des réalités tout à fait contemporaines. Le souci quoi, des rois à ce moment-là a été effectivement d'arriver à l'unification culturelle, pas du pays, et on espérait au fond, quoi, c'est pas du racisme, parce qu'on espérait que ces juifs et ces musulmans se convertiraient. Il y a un mot du roi à propos des musulmans qui dit très bien le fond de sa pensée, je sais que ces musulmans ne seront jamais chrétiens, mais leurs enfants et leurs petits-enfants le seront. Là, il s'est trompé, quoi.
Ouais, c'est pas les chassants qu'on risque de les faire devenir chrétiens, parce que bon, ils sont partis, ils sont retournés pour ce qui concerne les musulmans. Même d'ailleurs, énormément de juifs, ce sont dans les juifs séfarades, pour beaucoup d'entre eux, en Afrique du Nord. Alors, c'est quoi? C'est par fanatisme religieux, si on peut
pas
dire.
Du tout.
C'est plus tard, c'est après cela, d'ailleurs, que on a appelé Isabelle et Ferdinand les rois catholiques. Isabelle la catholique ne l'est qu'à partir de ce moment-là.
Non, pas du tout. Ça, c'est le pape qui a donné le titre de roi catholique à Ferdinand et Isabelle en 1496. Et pas du tout pour les raisons que vous invoquez. Vous savez pourquoi? Le texte de la bulle pontificale est parfaitement clair. On veut remercier les rois catholiques, les rois, Ferdinand et Isabelle, d'avoir libéré l'Italie. C'est-à-dire d'avoir conquis le royaume de Naples et d'avoir mis les Français à la porte. Voilà la première raison.
Ça, ouais.
Voilà la première raison qui est invoquée dans le titre donné aux rois catholiques. Ils ont libéré l'Italie, concrètement le royaume de Naples, qui était occupé par Charles VIII, par les Français. Le royaume de Naples, le pape, considéré comme un fief du pape. On veut remercier. Et les Français s'y sont pas trompés, d'ailleurs. Ils ont bien vu qu'en donnant, en honorant les rois catholiques, c'est la France que le pape visait.
Alors, en tout cas, qu'il s'agisse de l'expulsion des juifs ou des musulmans d'Espagne, qu'il s'agisse, bien sûr, aussi de l'Inquisition, ça, c'est évidemment la face un peu sombre de
tout
ce...
De ce
double règne de Ferdinand et Isabelle, alors qu'en revanche, évidemment, il y a d'autres choses qui se passent en 1492, l'année de l'expulsion des Juifs d'Espagne, de la reconquête de Grenade. C'est aussi une rencontre historique entre Isabelle et un homme qui allait lui offrir un nouveau continent et que personne jusque-là ne prenait au sérieux.
Seigneur Colomb, pourquoi devrais-je avoir confiance en vous?
Je vois quelqu'un qui n'accepte pas le monde tel qu'il est, qui n'a pas peur. Je vois une femme qui pense...
Une femme.
Pardonnez-moi, mais vous êtes la seule reine que je connaisse.
Seigneur Colomb, quel âge avez-vous?
39 ans, votre majesté. Et vous?
J'ai 40 ans. Vous serez informé de notre décision. Ce sera une entreprise ruineuse.
Pas plus que deux banquets royaux. Deux banquets contre de nouvelles terres, des épices et de l'or.
Que voulez-vous dire, Sanchez?
Simplement que s'il a raison, nous avons tout à gagner. Et s'il a tort, si peu à perdre.
Alors c'était un extrait du film de Ridley Scott, 1492, Christophe Colomb. Vous avez reconnu, Joseph Perel sûrement, la voix de Gérard Depardieu dans le rôle de Christophe Colomb, rencontrant Isabelle la catholique. C'est elle, en fait, qui a finalement décidé cette expédition. C'est grâce à elle qu'on a découvert le Nouveau Monde, même si Colomb n'a jamais su qu'il avait découvert un nouveau continent.
Oui, c'est ce que Colomb n'arrêtera pas de répéter. Il dit c'est grâce à la reine, effectivement, que les Antilles ont été découvertes.
D'ailleurs, la première colonie, je crois, qui va s'installer à Hispaniola, s'appellera Isabelle.
Oui, c'est elle, apparemment, quoi, qui a finalement pris la décision d'encourager un projet, d'accepter un projet, et qui passait pour farfelu. Christophe Colomb est un très grand navigateur, indiscutablement, mais scientifiquement, il faisait pas le bois. Ses calculs étaient faux. C'était un illuminé qui s'imaginait aller découvrir le paradis terrestre, et la commission d'experts qui avait été chargée d'examiner le projet avait conclu, à juste titre, pas qu'on pouvait pas faire confiance à un individu qui était nul en géographie, qui se trompait dans ses calculs, même des calculs et des fautes énormes, quoi. Oui. Et la conclusion de la commission, c'était jamais. On savait parfaitement qu'il était possible d'aller en Asie en marchant vers l'Ouest. Mais on ne savait pas qu'il y avait l'Amérique entre les deux. Et alors, l'opinion des savants consultés, c'était que jamais aucune caravelle ne pourra emporter assez d'eau potable pour franchir toute cette traite. Oui. Alors, c'est pourquoi on avait refusé. Et c'est alors qu'en effet, un des conseillers d'Isabelle est revenu à la charge. Ça c'est le financier, mais le premier c'est un dominicain qui a dit, après tout, qu'est-ce qu'on risque, on a affaire à un illuminé, c'est évident, mais si par hasard il avait raison, vous rendez
c'est
compte.
C'est ce qu'on a entendu d'ailleurs à la fin
tout à fait,
du
tout
film.
Oui, alors, alors là, Saint-Angèle est arrivé, on dit, bon finalement ça va pas coûter si cher que ça. Quoi.
Mais justement, on a souvent dit que c'est sur sa propre caisse, c'est en vendant ses propres bijoux qu'Isabelle la Catholique a financé l'expédition de Colomb.
Impossible. Faux et impossible parce que les bijoux avaient déjà été placés dans une banque de Valence pour obtenir un emprunt pour la guerre de Grenade.
Ah bon?
Non, ça c'est pas. Non, c'est, vous savez qui a payé l'expédition? On le sait, on a des documents. C'est le petit peuple castillan.
Ah oui? Oui.
On a prêché la bulle de la croisade et les fonds de la bulle de la croisade ont été versés à Christophe Colomb, 1 million et des poussières de Maravedi pour financer l'expédition. C'est donc les petits paysans de Castille, plus exactement d'Estrémadour, qui ont payé qui ont financé le premier voyage.
Et cela pour pas grand chose parce que le 12 octobre 1492, Christophe Colomb découvre donc, ou arrive en Amérique, et puis il n'y a pas d'or, il n'y a pas grand chose qui intéresse tout le monde. En revanche, il y a des hommes. Et là, ça va être le début de quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup, et qui est d'abord la mort, évidemment le mot génocide, là aussi vous n'aimez pas ce mot-là, mais en tout cas la mort de centaines de milliers d'Indiens plus tard, pas tout de suite, et puis surtout l'esclavage, dont Colomb était un partisan, Joseph Pérez.
Oui, tout à fait, Colomb, déçu de ne pas trouver dans les Antilles ce qu'il espérait y trouver, à savoir de l'or, des diamants, etc., s'est dit, il faut rentabiliser quand même l'expédition. Et quel meilleur moyen pour rentabiliser l'expédition que de transporter des Indiens en Europe et de les vendre comme esclaves. Alors là, à la gloire d'Isabelle, il faut dire que dans un premier temps, elle s'y est rigoureusement opposée. Il n'est pas question de transformer ces Indiens en esclaves. Vous allez les libérer tout de suite.
De quel Par droit l'amiral réduit-il mon sujet en esclavage hein, vous citez ce qu'elle dit.
Et donc, il y a eu une réaction extrêmement saine, pas énergique de sa part. Il semble que par la suite, elle ait fermé les yeux, ou l'a-t-elle vraiment su, on n'en sait rien, mais enfin, la traite, enfin, pas la traite d'esclaves indiens, mais la mise au travail forcé des Indiens a commencé, avant la mort d'Isabelle, pas dès 1504, il y avait déjà, aux Antilles, des entreprises, pas des fonctionnaires qui avaient autorisé le travail forcé des Indiens.
Là,
Là,
on est à la fin, c'est le quatrième voyage de Colomb, d'ailleurs mourra désespéré, parce que finalement, c'est à Amerigo Vespucci, hein, lui aussi convoité par l'Espagne, qu'on va attribuer la découverte du continent américain.
À qui on va donner le nom, en tout cas.
Mais tragique aussi, cette fin d'Isabelle, hein, elle perd son fils unique, Juan, qui devait régner, son fils aîné, Juan, elle perd ses filles, il y en a une autre, qui deviendra célèbre, non pas à cause d'elle, mais à cause de son propre fils, qui était Charles Quint, c'est Jeanne la Folle.
Oui, ça, il est vrai que les 7 dernières années de la vie d'Isabelle ont été, en effet, profondément marquées sur le plan personnel d'abord, par la mort de ses enfants, et puis aussi sur le plan politique, parce que c'était quand même une femme qui réagissait à la fois en mère, mais aussi en politique, et qui voyait l'œuvre de sa vie finalement compromise, parce que le fils sur lequel elle comptait meurt à l'âge de 18 ans, en 1497, sa fille aînée, Isabelle, qu'elle aimait, c'était sa fille préférée, meurt peu après, et finalement le trône va revenir à la troisième de ses filles, Jeanne, sur la santé mentale de laquelle courent des bruits, et c'est à cause de ça que finalement la dynastie, l'Espagne, va revenir aux Habsbourg, parce qu'elle va épouser un prince. Alors ça, elle le sent, Isabelle, et manifestement ces épreuves l'ont profondément marqué, au point qu'on a l'impression que depuis 1497, elle se désintéresse de plus en plus des affaires politiques.
Quand elle est morte, elle est morte en 1504, assez douloureusement, je crois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que, à nouveau, l'Espagne se disloque? Parce qu'on dit souvent que c'est grâce à elle, c'est d'elle, c'est de leur mariage, de son mariage avec Ferdinand, qu'est née l'Espagne que nous connaissons aujourd'hui.
C'est vrai, mais la chose a failli se défaire en 1504, puisque au moment où elle meurt en 1504, son mari cesse d'être roi de Castille, il n'était que le mari de la reine, il redevient simple roi d'Aragon, et on le prie de partir, il part. Il quitte le pays. Donc, l'œuvre des rois catholiques est sur le point de... Alors, le hasard a bien fait les choses. Le mari de Jeanne la Folle, Philippe le Beau, meurt au bout de quelques mois, ce qui permet à Ferdinand de revenir et de régner au nom de sa fille. Il ne sera plus jamais roi de Castille. Mais il va exercer le pouvoir au nom de sa fille. Donc, là, l'unité se refait à ce moment-là.
Sa place dans la mémoire des Espagnols aujourd'hui, Joseph Pérez?
Eh bien, elle a été excellente jusqu'en 1936. Jusqu'en 1936, les libéraux espagnols, c'est-à-dire ce que nous pourrions appeler la gauche espagnole, étaient plus que favorables, étaient admiratifs devant l'œuvre d'Isabelle, malgré l'Inquisition. Hein. On lui pardonnait parce que c'était le gage à payer pour l'unité nationale. Mais enfin, on voyait dans les rois catholiques la dernière dynastie nationale et on était extrêmement chaleureux pour parler d'elle et pour parler de son œuvre. Franco, en récupérant la mémoire et l'image des rois catholiques, là, l'a compromise au point que elle passe volontiers pour une réactionnaire ou une fanatique, ce qui n'était peut-être pas, du moins à mon avis, la vérité.
Au point d'ailleurs qu'il est question de la béatifier depuis 1957 et qu'en réalité, ça bute sur
c'est sous Franco en 1957 que la décision a été prise d'engager un procès pour la canoniser. Évidemment, la date n'est pas innocente. Une canonisation, c'est toujours plus ou moins une opération politique. Canoniser Isabelle, qu'on le veuille ou non, c'était justifier le régime de Franco.
Merci Joseph Pérez. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur de Isabelle, la catholique, un modèle de chrétienté, point d'interrogation, qui a été publié chez Payot. Les extraits que vous avez pu entendre étaient tirés du film de Ridley Scott, 1492, Christophe Colomb, distribué en cassette vidéo par Gaumont. Et pour répondre à une question que l'on nous pose très souvent, notre générique, justement, est issu de la bande originale de ce film, composé par Vangelis, et disponible, bien sûr, en CD. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations auditeurs, en composant le 3230, puis en tapant la touche 1,34 centimes la minute, ou en consultant le site de notre émission sur franceinter.com.